Les défricheurs. Ma ville d'accueil. Histoire plurielle.
Il y avait des soucis, plutôt mon mari avec l'État. C'est à cause de ça qu'on est parti. J'ai accompagné mon mari. On se sentait tellement seul. C'était pas facile.
D'après le rapport annuel d'Amnesty International 2021 sur la situation des droits humains dans le monde, en Iran, les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion ont continué à être réprimés durement. Le code pénal prévoit toujours des peines allant à l'encontre de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements, tels que la flagellation, l'aveuglement, l'amputation, la crucifixion et la lapidation.
Moi aussi, je ne voulais pas souffrir, vous voyez, je ne voulais pas souffrir tellement de choses ici. Mais ce n'était pas possible d'y retourner. Mais on était obligé de trouver la solution, de soutenir, d'aller, d'avancer.
Ma ville d'accueil. Histoire plurielle. Le terme de réfugié est utilisé pour désigner une personne qui, en cas de retour dans son pays, craint d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe ou de ses opinions politiques.
Sans papier, voilà, sans avoir le statut, il n'y a pas beaucoup de choses. Vous ne pouvez rien faire.
Patient du docteur Kayemit, réfugié politique.
Et il n'y a aucune aide de l'État, mais par contre, vous pouvez trouver chez les associations des aides, voilà. Mais c'est pas facile, c'est pas évident.
L'association a pour vocation de suivre tous les réfugiés qui le souhaitent, des personnes qui ont été victimes de la torture ou qui arrivent en France.
Myriam Kayemit, médecin psychiatre, présidente de Paroles sans frontières.
Comme le disait ma patiente, qui se retrouve déboussolée parce qu'il n'y a plus de repères, parce qu'on a été obligé de fuir une situation qui était invivable, insupportable, que la vie était en danger dans son pays d'origine et qu'on doit partir. Et ce n'est pas évident quand on a construit une vie, qu'on est professionnel, familial et qu'on doit tout laisser du jour au lendemain.
En Iran, les partis politiques indépendants, les syndicats et les organisations de la société civile sont interdites. Les médias censurés, les chaînes de télévision par satellite brouillées et les réseaux sociaux Facebook, Telegram, Twitter, YouTube signalent bloqués.
Il n'y a pas effectivement de dispositif d'État ciblé sur l'accueil psychologique des réfugiés, malheureusement. C'est un souhait que porte l'association qu'il y ait, quand les personnes arrivent sur le territoire, quel que soit leur parcours migratoire, qu'ils puissent avoir un bilan de santé qui inclut la santé mentale. Il y a des aides que la France peut apporter, bien que cela soit largement insuffisant sur le plan matériel, en trouvant un hébergement, en apportant une couverture santé, la scolarisation des enfants. Il y a un aspect matériel, mais tout l'aspect psychique, affectif, est largement en défaut pour nos patients. Et c'est en ça que l'association peut aider pour essayer de retrouver une identité propre. Une identité dans laquelle on peut se sentir bien en ayant traversé cette expérience d'exil.
J'ai trouvé Dr Kayemit par rapport à un autre professionnel de la santé, un autre médecin en fait, qui m'orientait chez Dr Kayemit. Parce qu'à l'époque, j'étais pas bien. J'avais besoin d'un suivi, je me sentais pas bien, voilà. Voilà, je suis passée chez Dr Kayemit et ça a continué jusqu'à maintenant.
L'association existe depuis 1991. Elle a été créée par des psychiatres et psychothérapeutes à Strasbourg qui avaient pour souci de pouvoir porter le soin psychothérapeutique dans la langue maternelle du patient. Donc ça a été une première expérience de travailler avec des interprètes professionnels, ce qui était un changement de cadre dans le soin psychiatrique parce que c'est généralement à deux, l'un face à face, et là on introduit un tiers, un interprète, pour que dans sa langue d'origine, le patient puisse exprimer ses émotions, ses sentiments, son vécu, avec des mots qui vont, avec des signifiants qui ont une valeur importante pour lui. 90% des consultations à Paroles sans frontières se font avec des interprètes professionnels. Les 20% restants sont soit pour les patients qui sont francophones, soit pour des patients où le thérapeute parle la langue d'origine du patient. On a des thérapeutes qui parlent en turc, en anglais, certains en allemand, en russe et d'autres langues.
Il y avait beaucoup de choses qui étaient dures. La première, c'est ça, c'est vrai qu'on quittait ton pays, mettait tout là-bas, tout ce que tu as fait, tout. J'ai fait des études là-bas, j'avais mon travail, j'ai beaucoup investi là-bas, quoi. Mais là, j'étais obligée de tout mettre et partir. Et pour vous dire, franchement, avant de venir, même j'avais le projet de continuer mes études. Je me suis inscrite à l'université pour continuer. Mais tout d'un coup, j'ai tout obligé de rester, de quitter, voilà, et de laisser et partir. Et ça, c'était déjà un grand choc, voilà, un grand choc. Mais c'est vrai que j'étais un peu, comment dire, attachée aussi mes parents, voilà, mon entourage. Je suis sensible. Et ça aussi m'a beaucoup touchée. Et quand nous sommes arrivés ici, et c'est vrai que notre première demande a été rejetée. On a reçu le rejet pour notre demande. Et ça encore, c'était pas facile. Parce que quand nous sommes arrivés, on attendait que voilà, ça va aller, on va trouver voilà, une solution ici en France, voilà, ça va régler. Mais non, c'était pas facile. Notre demande a été rejetée, voilà, on n'avait pas d'aide, pas de connaissances, rien, pas de famille ici en France. Et il y avait d'autres choses qui étaient arrivées à côté parce que quand on est parti, moi je savais pas quoi. Mon fils, il a des soucis. Mais quand nous sommes arrivés ici, après 2 ans d'école, ils ont mis un diagnostic sur mon fils. Et là aussi, c'était un autre choc en plus.
L'exil, je le rappelle, c'est sortir hors de soi, hors d'un endroit où on a racines, hors d'un endroit où on a ses repères, hors d'un endroit où on a une identité. Et il faut trouver une façon pour que cette transplantation dans une autre sol, dans une autre terre, dans une autre culture puisse prendre. Et ça, c'est le travail de Paroles sans frontières, entre autres, hein, de reconstruire cette identité à partir de nouveaux points de repère. Et d'arriver non pas à ce mot que l'on appelle l'assimilation, où il faut que la personne qui arrive absorbe tout ce que la culture française peut apporter. Oui, c'est nécessaire. Mais je suis très attachée à cette notion que l'on appelle l'intégration créatrice pour former un métissage optimal entre la culture d'origine et la culture française et comment on peut, à travers cette expérience d'exil, retrouver une identité avec une plus-value parce qu'on a pris le meilleur des deux.
En fait, je suis arrivée en fin 2011 en France. Mais je reçois le statut de réfugié fin 2016. Au moins une fois par mois, je viens pour parler avec Dr. Kaïmid. Et ça m'a beaucoup aidée, beaucoup.
À Paroles sans frontières, c'est un accueil inconditionnel, sans papier, sans couverture maladie. Alors, on ne peut pas faire un bilan quantitatif, mais qualitativement, on le voit que on arrive à réparer quelque chose chez nos patients. C'est notre souci, c'est notre ADN, c'est cette réparation, cette reconstruction, comment retrouver dans de l'humanité chez un patient qui a été blessé, torturé, qui a dû, comme je le disais tout à l'heure, quitter ses racines et qui peut continuer sa vie en étant le mieux qu'il puisse être dans cette nouvelle vie.
Quand on a reçu le rejet, c'est vrai qu'on a essayé de trouver la solution. Et chaque fois que j'appelle, par exemple, le 115 pour dire que voilà, on n'a pas de solution pour le logement et tout ça, et ils m'ont demandé retourner en Iran. Mais je pouvais pas retourner en Iran. Si c'était possible.
Il y a une représentation des réfugiés très négative en France, malheureusement, des personnes qui viennent profiter du système. Or, dans l'expérience qu'elle a traversée, ma patiente, elle a pu dire comment ils se sont battus, son conjoint et elle, pour reconstruire une vie et se saisir de la formation, de l'école pour avancer.
J'avais un bac plus 4 dans autre chose, mais là, après que j'ai reçu le statut, je me suis inscrite chez Pôle emploi, voilà, et je cherche une formation pour pour faire un travail, pour trouver un travail après. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de... D'abord, il n'y avait pas beaucoup de confiance. Alors, à cause de la langue française, ils ont dit que non. Par exemple, cette formation, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Mais après, j'ai essayé de convaincre mon conseillère que j'arrive. Il m'a orienté à faire quelques dispositifs pour se rassurer que j'arrive à faire une formation que je demande. Et après, j'ai reçu l'accord de Pôle emploi et ils m'ont pris en charge le frais de ma formation. Et là, en ce moment, je suis en formation CAP AEPO, accompagnant éducatif petite enfance. Jusqu'à maintenant, c'est très bien passé. Ça me reste deux épreuves. Mais c'est vrai que je voulais le faire aussi pour... je voulais montrer à mon entourage ici en France, à tout ce que... Je connais maintenant mes amis et tout ça, surtout les Français, parce que j'ai des amis d'origine française aussi, que les réfugiés qui viennent là, c'est pas que pour bénéficier de l'État, vous voyez, c'est vrai qu'il y a des avantages là, mais il peut apporter quelque chose aussi, il peut s'investir, il peut, s'il y avait de la possibilité, il peut s'avancer, voilà. Un peu changer ce regard négatif sur les étrangères. Voilà, ça c'était important pour moi.
Là où vivaient des arbres maintenant, la ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant, n'existent plus.
Pourquoi les enfants? Parce que avec ce que j'ai vécu avec mon fils, comme je vous ai dit, elle a reçu un diagnostic. Maintenant, je suis très sensible au développement des enfants, tout ce qui est voilà, important, les premières années voilà, d'un enfant. Voilà. Et les enfants me donnent de l'énergie, de la joie quand je suis avec les enfants. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Et je me disais que je voulais y aller. Pour ma formation, j'ai fait deux stages et je suis beaucoup rassurée que ce métier est pour moi. C'est tellement bien passé avec les enfants. Voilà, et j'aimerais bien de trouver un travail.
Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce point de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire, et il me semble que